Bonjour chers auditeurs, voici l'émission « Les marches de la foi » proposée par le service diocésain de formation continue. Catherine Mann avec vous cette semaine pour vous présenter la prochaine conférence, donc une formation qui aura lieu à la Visitation à Chartres le jeudi 9 mai de 14h à 17h sur le thème de l'icône. Découvrir ou mieux connaître les icônes selon la tradition orthodoxe. Cette conférence sera donnée en tandem par le père orthodoxe Jean-Claude Pentier et Madame Radegonde Galéa, iconographe, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour nous présenter cette formation. Bonjour Radegonde Galéa, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je veux dire, c'est quand même un peu une gageure de vous faire parler à la radio d'icônes, qui est quand même un art visuel. Alors, ma première question serait, d'abord, est-ce que la peinture d'icônes peut vraiment être considérée comme un art ?
C'est vrai que c'est une gageure hein, de parler, surtout pour moi, qui ai plus l'habitude de parler avec un support, quoi, de montrer en même temps que je parle.
Imaginons l'icône. Alors, est-ce un art ?
C'est un art liturgique. Un art liturgique au service de l'Église.
Qu'est-ce que ça implique, liturgique ? C'est une limitation, quand même, de l'expression ?
Non, ce n'est pas une limitation de l'expression. C'est une expression au service de l'Église. C'est pour l'Église. Donc, forcément, on est dans la tradition de l'Église. L'iconographe doit adhérer complètement à la foi de l'Église. On est dans l'obéissance et l'humilité.
Et aussi, je suppose, une pensée qui est derrière. On dit bien écrire une icône et non pas peindre une icône.
Oui, dit écrire une icône parce que dans l'icône, en fait, on rend présent que ce qui est écrit dans les textes, pour la majeure partie des icônes. Donc, effectivement, il y a une comparaison entre le Saint-Évangile et l'icône. Donc, écrire en image. L'Évangile.
Est-ce que c'était fait pour des gens qui ne savaient pas lire au départ ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Dire ça, c'est un peu nier l'importance de l'image et l'impact de l'image sur chaque personne. Mais bon, ça, je l'évoquerai plus longuement avec des exemples plus précis.
Oui, c'est difficile. Vous ferez des projections, je
suppose. Oui. C'est tout à base de projections.
Oui, c'est sûr que parler de l'icône, vaut mieux voir ce dont on parle. Mm-hmm. Mais on n'a pas quand même des codes assez restreints. On n'est pas un peu contraint à se modérer dans l'expression, disons.
Cette question de restriction me gêne un petit peu.
Oui.
Parce que... Quand on peint en icône, on est dans l'énergie de l'Esprit-Saint. Et moi, je ne veux pas restreindre l'Esprit-Saint. Mais c'est vrai aussi que l'Esprit-Saint, que l'Église a défini des règles.
Ah oui.
Que l'Église a défini des règles. Mais justement, dans l'orthodoxie, c'est toujours un petit peu cette problématique-là. Il y a des règles, et puis... Il y a la vie, on reçoit l'esprit, on ne peut pas non plus trop restreindre les choses, trop limiter les choses.
C'est oui, mais pas, pourtant, c'est un peu stéréotypé, on a l'impression qu'on voit toujours la même chose.
On a l'impression qu'on voit toujours la même chose, mais on prend 5 Christ, ils ne sont jamais les mêmes. Hein. Je veux dire, les expressions... Les positions de main, ce qui ressort de l'icône, c'est jamais la même chose. Hein. J'ai des élèves débutants dans l'atelier où je travaille. Sur un même modèle, j'ai pas...
Toute interprétation. L'interprétation est quand même présente un peu.
Alors, mais interprétation, ça fait appel à quelque chose de personnel.
De subjectif, oui. Donc, c'est quand même pas ça.
C'est quand même pas ça, non. C'est quand même le travail de l'Esprit-Saint à travers la personne. Oui. Et ce n'est pas de quelle manière la personne a ressenti. Ouais, on n'est pas sur un ressenti propre. Mais c'est pour ça qu'il y a une nécessité d'ascèse, de prière et d'obéissance. C'est pour qu'on ne soit pas... qu'on soit individu, mais individu purifié pour pouvoir...
Oui, pas dans le pathos affectif oui, et voilà, tous ces bon, machins voilà. un peu
Et puis dans une expression personnelle de sa religion.
Oui, sa religiosité. Dire,
voilà. Mais voilà, on verra effectivement toutes ces, entre guillemets, règles ou consignes qu'on donne en atelier. Parce que l'icône, ça s'apprend en atelier.
Il y a des lignées aussi différentes, quand même, si on est grec, russe.
Oui. Mais des lignées, oui, des techniques. Des lignées de techniques.
Oui, mais pas tellement sur le fond.
Pas tellement sur le fond, non. Non.
Et qu'est-ce que. Ça peut, dans ces lignées techniques, est-ce qu'on peut imaginer des techniques un peu modernes? Je pensais que j'avais rencontré un jour une personne qui peignait des icônes à l'acrylique. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, dans notre atelier, en tout cas, ça ne se pourrait pas, parce que notre but est de travailler avec les matériaux les plus naturels possibles. Donc l'acrylique, c'est pigment plus caparole, donc une
chimique.
Chimique, une colle vinylique. Bon, ça ne le ferait pas dans notre atelier. Parce que l'idée de l'icône, quand même, c'est la transfiguration de la matière. Donc, on apporte toute la matière.
La chimie fait partie de la matière.
Oui, mais de la matière créée par l'homme et pas créée par Dieu.
Oui, c'est à discuter. Je pense qu'on verra aussi toutes ces lignées selon les appartenances.
Oui,
parce que dans vos projections, vous aurez des icônes de plusieurs pays.
Oui, de plusieurs pays.
Pour qu'on comprenne un peu comment ça fonctionne.
Comment ça fonctionne, oui. Oui, peut-être que... Mais je peux juste te dire sur les Grecs et sur les Russes, par exemple. L'importance dans l'icône, c'est la montée de la lumière, c'est la transfiguration de la matière. Donc c'est comment arriver, pour l'iconographe, de faire sentir cette lumière, de faire naître cette lumière. Mmh. Voilà, de faire monter la lumière. Donc les Grecs, sur un fond foncé, ils la mettent tout de suite en aplat et après, ils recouvrent avec la membrane. Qu'est-ce que c'est difficile d'expliquer, rien qu'à l'oral.
On comprend, on voit très bien.
Alors que les Russes,
ils la mettent petit à petit.
Petit à petit, ça monte. Alors que les Grecs, ils la mettent en dessous
pour la faire transparaître.
Voilà, pour la faire transparaître.
Les deux, on peut faire les deux aussi.
Ah ben,
les deux ont leur sens.
On peut faire les deux.
Mais il y a quelque chose qui me tracasse quand même, c'est que souvent, on est resté aux vêtements de l'art byzantin, de l'Empire byzantin. Et je suis toujours un peu étonnée parce que Jésus, avec des vêtements d'empereur byzantin, ça ne colle pas tout à fait à la vérité historique. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, ça correspond à une époque.
Troisième, quatrième siècle, l'Empire byzantin sous Constantin qui est resté marqué dans les mémoires.
Ça, je ne saurais
pas vous
dire.
Mais pourquoi est-ce qu'on ne changerait pas ça?
Toutes les icônes, moi, que je vois, qui se font maintenant, il n'est plus du tout représenté comme ça.
Ah, bon. Donc, il y a aussi une évolution dans l'icône.
Il y a eu un symposium, un grand mot, avec des iconographes russes, grecs et roumains, il n'y a pas longtemps sur Paris, là, dans la nouvelle cathédrale, où vraiment, ils sont à la recherche des représentations des premiers siècles, quoi, de la chrétienté des premiers siècles. Et en fait, c'est géant parce que ça... L'art roman, quoi. On retrouve l'art roman.
Oui, on replonge vraiment aux
racines. On replonge.
Ah, c'est bien. On ne va pas avoir une idée de la crispation de l'icône.
Non. Et c'est vrai que l'empereur a bien utilisé ça. Pour s'implanter lui-même en tant que
descendant
direct.
C'était un peu son truc se faire
utiliser la religion comme argument politique ou comme
cohésion d'empire, le plein pouvoir, bien sûr. Donc on peut imaginer du nouveau. Est-ce que vous, dans ce nouveau, vous voyez que les catholiques ont leur place? Dans vos ateliers, je crois que vous mélangez œcuméniquement, finalement.
Oui. Et c'est même un des buts de l'atelier. C'est d'arriver à trouver une unité à travers l'icône. Et ça, les amis avec qui on travaille, ils sont vraiment dans cette mouvance. Ils sont vraiment dans cette mouvance. Après, qu'est-ce qu'il en est vraiment de la conscience même de l'icône dans le monde catholique?
Théologiquement et liturgiquement.
En tant que présence réelle,
Non, comme, non, on n'est pas encore là.
Ouais. Comme quasiment la relique.
Oui, non, mais vous nous expliquerez ça, parce que ça, c'est un élément important pour le monde catholique. On en est resté un peu à l'illustration.
Oui.
Plus qu'à la vénération. On ne comprend pas l'idée de vénération. Oui. Bon, bah, écoutez, ça risque d'être très intéressant, tout ça. Je vous rappelle, donc, chers auditeurs, ce rendez-vous important, donc, cette conférence de découverte de l'icône à la Visitation, avenue d'Aligre à Chartres, jeudi 9 mai, de 14 à 17 heures, avec donc le père orthodoxe Jean-Claude Pentier, qui, je suppose, parlera plus de la théologie de l'icône.
Oui, théologie dogmatique de l'icône.
Et Madame Radegonde Galea, qui nous parlera de son art liturgique, et à qui je dis donc un grand merci d'être venu nous présenter cette formation.
Merci à vous.
Et à très bientôt. Je vous rappelle également, chers auditeurs, que vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de Radio Grand Ciel. Et je vous dis maintenant au revoir et à très bientôt.
Et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de vous.